Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? Que signifie cette parole? Jésus serait-il offusqué parce qu'on n'aurait pas reconnu le miracle qu'il vient d'accomplir? Ou bien a-t-il comme intention de nous donner une règle de savoir-vivre, comme la maman apprend aux petits gens à dire merci quand la boulangère le dimanche matin lui donne une friandise? Essayons d'y voir plus clair. Jésus se trouve à faire une rencontre tout à fait imprévue, celle de ces 10 lépreux qui, selon la loi, sont tenus à l'écart et donc s'adressent à lui de loin en criant « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » Déjà dans cette manière de s'adresser à Jésus, il y a un message. Jésus est appelé là par son nom humain. Un humain. D'autres l'ont appelé fils de David. Il est simplement appelé maître. Mais c'est déjà quelque chose qui en dit long. On reconnaît en lui une sagesse peu ordinaire. Et puis il y a ce cri du cœur. Prends pitié de nous. Les évangélistes ont été très sensibles au fait que Jésus ne restait jamais de marbre devant la détresse humaine. Combien de fois l'ont-ils surpris et nous l'ont-ils rapporté, ce Jésus tressaillant de pitié devant la détresse de l'homme. C'est exactement cette expression qui était utilisée, par exemple, dans le cas de la veuve de Naïm. Lorsque Jésus comprend la situation, il est immédiatement saisi de pitié pour cette femme. Ou bien, souvenez-vous, ce regard que Jésus pose devant la foule comme perdu sans berger. Ou encore, c'était la parabole que nous entendions il y a quelque temps, celle du Samaritain qui lui aussi est saisi de pitié devant cet homme qui gît au bord de la route. Et donc on peut dire que si le regard que ces lépreux posent sur Jésus est encore peut-être un regard trop humain, disons-le, trop intéressé, parce qu'il est celui qui peut les guérir, il y a quelque chose qu'ils ont pénétré déjà du mystère de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle ils font appel à lui. Les esprits chagrins diront peut-être que ce 10e homme, cet unique qui revient vers Jésus, est samaritain. Et puisqu'il est samaritain, il est considéré par la religion officielle juive comme de toute façon renégat, et on peut penser à l'accueil que les prêtres juifs lui auraient fait s'il s'était présenté à eux. Donc pour lui, il n'est pas tellement question de retourner devant les prêtres. Par contre, grande leçon à travers son comportement lorsqu'il revient vers Jésus. Il est des situations dans notre vie, nous n'aimons pas souvent revenir en arrière, mais il est des situations où il n'y a pas moyen de faire autrement. Et je pense que c'est vraiment profondément ce mouvement intérieur qui saisit cet homme. Il a rencontré celui que son cœur cherchait. pas seulement parce qu'il était capable de le guérir de sa lèpre, mais parce que lui seul, Jésus, ce maître, est capable de répondre aux désirs profonds de son cœur d'homme. Il nous est dit à deux reprises qu'il glorifie Dieu. Puis il nous est dit qu'il se prosterne, il se jette à terre devant Dieu, devant Jésus, acte d'adoration réservé à Dieu seul. Et enfin, il nous est dit qu'il rend grâce. Il me semble qu'ici, il y a bien en effet une leçon de savoir-vivre chrétien qui se décline autour de ces trois verbes ou de ces trois mots. Glorifier. Et glorifier pas seulement pour soi-même, mais le texte ajoute qu'il glorifie à voix haute, ce qui signifie déjà un acte de témoignage, un acte missionnaire. On a bien sûr le droit de glorifier pour soi-même, mais si vraiment cette glorification est authentique, elle n'a qu'un désir, c'est de se communiquer, c'est de se partager. Elle est profondément missionnaire. Et c'est pourquoi Jésus lui dit « Va, va, annonce ce que j'ai fait pour toi. » Le deuxième verbe, « adorer ». Il se jette aux pieds de Jésus, « adorer ». Reconnaître que celui-là est plus qu'un homme, il est Dieu. Et là aussi, Jésus a une réponse. Relève-toi. Relève-toi, c'est le verbe typique des évangiles pour signifier la résurrection. C'est à une véritable résurrection que nous assistons ce matin à travers ce Samaritain qui non seulement est guéri dans son corps, mais est guéri au contact de Jésus dans son cœur. Et la troisième expression, rendre grâce. Il n'est pas facile de rendre grâce, car cela suppose d'être capable de reconnaître que l'on est redevable d'un autre, qu'on lui doit tout à cet autre. Cela demande l'humilité. L'humilité qui n'est que le dévoilement de la vérité. Saint Bernard y a beaucoup insisté, avec raison. Vérité sur ce qu'est l'homme, vérité sur ce qu'est Dieu. Le pécheur, l'homme, devant Dieu, la miséricorde. Et c'est ainsi que, par cette humilité, cet homme est capable de comprendre qu'au fond, il dépend totalement dans son être d'un autre. Et nous comprenons aussi que l'humilité va de pair avec l'obéissance. C'est exactement ce que montre le premier épisode que nous avons entendu. Nous n'avons entendu qu'une partie, j'ai envie de dire la plus glorieuse pour Naaman. Mais le texte biblique nous raconte qu'avant d'accepter de se plonger sept fois dans le Jourdain, il a commencé par se rebeller. C'est bien la peine d'avoir fait tout ce trajet pour entendre une chose aussi banale, alors que le fleuve de l'Euphrate vaut largement plus que le petit Jourdain qui coule dans ce pays. Et c'est par l'obéissance. L'obéissance à un homme, c'est le texte qui le dit, un homme de Dieu, le prophète Élisée, que Naaman va recouvrer la santé et lui aussi sera amené à rendre grâce. Non pas à Élisée, Élisée se défendra, ce n'est pas moi la cause de ta guérison. Rends gloire à Dieu. Les derniers mots de Jésus doivent aussi attirer notre attention. Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. L'évangéliste Luc est sans doute l'un de ceux, parmi les quatre, qui est le plus attentif à cette joie du Christ devant la foi des hommes. Quatre fois, pas moins, nous entendons littéralement cette expression « ta foi t'a sauvé » en Luc. Et ce qui est intéressant, c'est que deux fois cette parole est adressée à une femme, deux fois elle est adressée à un homme. La foi. La foi, cette disposition du cœur qui nous oblige à nous en remettre à un autre. Et Jésus ne dit pas « ta foi t'a guéri », mais « ta foi t'a sauvé ». C'est beaucoup plus, c'est infiniment plus, car c'est tout l'être, pas seulement le corps, tout l'être de cet homme qui se trouve renouvelé, finalement ressuscité. Alors peut-être nous demandons-nous, nous nous posons cette question, et ma foi, et ma pauvre foi à moi. Eh bien Paul, dans la deuxième lecture que nous avons entendue en allemand, nous livre un secret, et un secret qui pour nous, pour chacun de nous, chacune de nous, est une immense consolation. Si nous manquons de foi, lui, Dieu, reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Au fond, notre foi n'a de valeur que si elle s'appuie sur celui qui, plus encore que nous, croit en l'homme, croit éperdument en la capacité de l'homme de revenir, de se convertir et d'ainsi retrouver la joie d'appartenir à Dieu par tout son être.